compagnie de Michael Ponge pour le rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Michael, bonjour.
Bonjour Gilles, il est 8h10 à Lima. Pas encore de résultat pour la présidentielle au Pérou, mais déjà des contestations en justice de la part de la candidate Keiko Fujimori. La pénurie d'oxygène dans les hôpitaux en Haïti pour les malades du Covid, on en parle avec Franz Duval du Nouvelliste, tandis qu'en Guyane, les services de réanimation sont saturés. C'est à la une de votre journal, Tessa Groman.
Oui, nous vous en parlions déjà hier. Face à un pic de l'épidémie de Covid-19, le directeur du groupement hospitalier de Guyane tire la sonnette d'alarme.
À tout à l'heure, Tessa. Et juste avant vous, on sera à Cuba avec cette question. Peut-on rire de tout ? Bienvenue à tous. Elle s'était engagée à respecter le verdict des urnes, mais ça, c'était avant que quelques voix seulement ne la séparent de son rival. Au Pérou, la candidate de la droite populiste à la présidentielle, Keiko Fujimori, donnait derrière son rival de gauche, Pedro Castillo. D'après des chiffres qui ne sont pas encore définitifs, Keiko Fujimori a décidé de contester.
Fuerza Popular dépose des actions en nullité dans 802 bureaux de vote du pays. Actions qui sont présentées au jury électoral national. Ces 802 bureaux de vote représentent environ 200 000 votes. Lorsque ces actions en nullité seront admises, elles devront être retirées du décompte final du jury électoral national.
Fujimori conteste, Castillo, lui, s'estime vainqueur et ses soutiens s'en sont réjouis hier soir lors d'un rassemblement dans la capitale péruvienne, Viloen Munoz Boileau.
Des centaines de partisans de Pedro Castillo étaient réunis devant son QG à Lima hier soir au moment où Keiko Fujimori a annoncé qu'elle contestait certains votes. Une déclaration immédiatement condamnée par les soutiens du candidat.
La candidate de la mafia organisée et de la corruption veut faire annuler des milliers de votes que Pedro Castillo a légitimement acquis. Mais nous sommes là aujourd'hui pour rappeler aux organismes électoraux qu'ils doivent faire respecter la volonté du peuple.
Dès lundi, anticipant sa probable défaite, Keiko Fujimori avait déjà dénoncé de supposées fraudes sans en apporter la preuve. Depuis, des partisans de Pedro Castillo venus des quatre coins du pays campent devant les organismes électoraux dans le centre de Lima pour défendre leur vote et leur candidat.
Madame Fujimori ne veut pas accepter sa défaite, mais le peuple a voté pour Pedro Castillo et nous allons rester ici pour défendre la démocratie.
À quelques mètres de là, des centaines de partisans de Keiko Fujimori se sont eux aussi rassemblés hier soir munis de pancartes « Non à la fraude » pour soutenir leur candidate. Signe des tensions qui règnent dans le pays ces derniers jours, dans la soirée, des heurts ont éclaté entre les deux camps. Malgré la forte présence policière, un groupe de fujimoristes s'en est pris aux partisans de Pedro Castillo. Viloen Munoz Boileau, Lima, RFI.
Et dans ce climat, bonjour Romain Lemaresquier.
Bonjour Michael, bonjour à tous.
La presse péruvienne appelle au calme.
Oui, c'est le maître mot des quotidiens péruviens ce jeudi. Avant tout, il faut rester calme, titre par exemple Peru 21 dans son éditorial du jour, tout comme El Comercio qui demande aux forces politiques et à leurs partisans d'attendre que le décompte se termine et que les recours déposés par Fuerza Popular, le parti de Keiko Fujimori, soient étudiés.
Keiko Fujimori, Romain, qui au total estime que c'est un demi-million de bulletins de vote qui devraient être étudiés.
Oui, du coup, Peru 21 appelle les Péruviens à patienter et à faire confiance dans la justice électorale qui s'est engagée en matière de transparence. Une fois les décisions annoncées, le Pérou aura un nouveau gouvernement, explique El Comercio, et peu importe de quelle tendance politique, car les Péruviens devront de toute manière continuer à exercer leurs droits de citoyens, c'est-à-dire défendre la démocratie, la constitution et l'état de droit.
Le respect de l'état de droit, c'est pour cette raison que la Commission interaméricaine des droits de l'homme a dépêché en ce moment une mission en Colombie où la contestation populaire a été réprimée dans le sang. Hier encore, plusieurs milliers de personnes sont descendues dans les rues pour faire pression sur le gouvernement d'Ivan Duque et soutenir la mission de la CIDH. À Bogota, Marie-Ève de Teuf.
Les manifestants s'étaient donné rendez-vous devant l'hôtel Tequendama où se réunit la délégation de la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Ils n'étaient que quelques milliers. Explication d'Oscar, jeune professeur de lycée.
Nous sommes mobilisés depuis 42 jours. Alors oui, cela commence à nous coûter. Mais le degré d'indignation reste fort dans le pays et cela fait que la lutte continue.
C'est également l'avis d'Andrea, 31 ans.
La Colombie a démontré qu'elle a une capacité de résistance phénoménale et nous continuons à lutter parce que nous voulons un vrai changement. Nous sommes tous plus fatigués de la situation du pays que des manifestations.
Andrea est venue applaudir la Commission des droits de l'homme.
Le fait qu'à l'étranger, on commence à entendre notre voix, que la commission soit venue sur place, ça nous donne clairement de l'espoir.
Omaira, professeure universitaire, entend bien, elle aussi, rester dans la rue.
Demain, il y a une grande marche qui va s'organiser autour des universités publiques et privées, en souvenir des étudiants qui ont été assassinés par la police.
Le gouvernement d'Ivan Duque joue l'usure de la mobilisation, les manifestants le savent. Marie-Ève de Teuf, Bogota, RFI.
On en parlait hier aussi, à l'approche de la présidentielle de novembre. Au Nicaragua, l'opposition est réduite au silence. Plusieurs candidats ou pré-candidats à l'élection ont été arrêtés.
Today, the United States announces sanctions on Camila Ortega Murillo, an advisor and daughter of Daniel Ortega.
Les États-Unis, par la voix du porte-parole du secrétariat d'État que l'on entend, demandent leur libération immédiate et annoncent des sanctions. Quatre proches du président, notamment, sont visés, le président Ortega, parmi lesquels sa propre fille. Voilà qui nous amène à l'actualité des États-Unis qui aujourd'hui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Le président Biden est arrivé hier en Europe. Demain, il participera au G7 au Royaume-Uni. Les États-Unis de retour dans le concert des nations. Et pour le prouver, Romain Lemaresquier, Washington devrait offrir 500 millions de doses de vaccins anti-Covid aux pays défavorisés.
Oui, une annonce officielle devrait être faite aujourd'hui ou demain. Ces 500 millions de doses seront destinées à près de 100 pays entre cette année et l'année prochaine, détaille le New York Times. L'administration Biden a scellé l'accord avec le laboratoire Pfizer juste avant que le président américain n'entame son voyage de 8 jours en Europe. Avec ce geste, les États-Unis veulent retrouver leur leadership au niveau international.
Les États-Unis qui étaient sous pression, un roman accusé de ne pas en faire assez dans ce domaine.
Et oui, c'est ce que rappelle le New York Times. Une première partie des vaccins sera distribuée directement auprès des pays concernés. La seconde partie sera livrée dans le cadre du programme COVAX. Les États-Unis rejoignent donc la Chine et la Russie dans cette diplomatie du vaccin. La seule différence, selon Joe Biden, c'est que son pays, contrairement aux deux autres, ne réclame pas de contrepartie à l'envoi de vaccins.
Les États-Unis, qui semble-t-il, ont décidé de prendre une position plus ferme, plus claire au sujet de la situation politique en Haïti.
Le journal d'Haïti et des Amériques.
Bonjour Franz Duval.
Bonjour Michael.
Rédacteur en chef du Nouvelliste. Washington, France, continue de s'opposer à la tenue d'un référendum constitutionnel, mais estime néanmoins qu'il y a une possibilité, une opportunité d'avoir des élections en Haïti si les étapes appropriées sont respectées.
Alors jusqu'à présent, les États-Unis n'étaient pas favorables à la tenue du référendum. Ils l'avaient dit dans tous les mots de la diplomatie. Mais cette fois, cela a été beaucoup plus clair. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken affirme que l'administration Biden s'oppose au référendum constitutionnel du président Jovenel Moïse. Il indique aussi qu'il y a une possibilité et une opportunité si les étapes appropriées sont respectées. Il commence même à mettre des doutes dans la tenue des élections, ce qui était jusqu'à présent leur cheval de bataille pour supporter Jovenel Moïse des élections en 2021.
Un tout autre sujet, Franz, conséquence des affrontements entre les gangs ces derniers jours à Martissant. Les hôpitaux à Carrefour font face à une pénurie d'oxygène.
Alors, c'est une conséquence inattendue. Martissant se trouve entre Port-au-Prince et la commune de Carrefour. Pour aller à Carrefour, tout comme pour aller dans 4 autres départements géographiques d'Haïti, il faut passer par Martissant et comme on ne peut pas traverser Martissant tranquillement, mais les hôpitaux de la région sud d'Haïti, particulièrement de la commune de Carrefour qui est limitrophe à Port-au-Prince, se trouvent face à une pénurie d'oxygène. Oxygène qui est le principal intrant dans le traitement des cas Covid en Haïti.
Alors que les cas, on le rappelle, sont repartis à la hausse en Haïti. D'ailleurs, le Nouvelliste France a pu constater que de plus en plus de personnes se font tester et aussi les premières doses de vaccins ont été administrées.
Tout à fait. Et maintenant, ils sont de tous âges, ils sont de toutes conditions sociales. Jusqu'à présent, c'était plutôt les gens les plus aisés qui allaient faire les tests pour savoir s'ils sont positifs au Covid ou bien si parce qu'ils devaient partir à l'étranger, ils faisaient le test. Cela a beaucoup changé parce que la maladie est en train de se répandre dans toutes les couches de la population. Et là où les tests se font, les centres sont envahis par une population inquiète. Et à la fois, il y a des tests payants, il y a des tests qui sont gratuits. Le problème des tests, particulièrement quand c'est gratuit, c'est le délai de livraison des résultats et on doit faire attention pour ne pas attraper la Covid en allant faire le test.
Et c'est à lire donc tous ces sujets dans votre journal Le Nouvelliste, Franz Duval. Merci.
RFI, les voix du monde.
Et on garde les yeux sur la presse, mais cette fois-ci du côté du Canada. Romain, vous êtes toujours là. Après la découverte des restes de 250 corps d'enfants autochtones sur le terrain d'un ancien pensionnat géré par l'Église catholique, l'institution fait à nouveau la une. Pour le pire, on apprend aujourd'hui qu'une plainte collective a été déposée contre des religieuses qui auraient abusé de jeunes filles sourdes pendant plusieurs années.
Et oui, décidément, l'Église catholique est au centre de l'actualité au Canada. C'est le quotidien La Presse qui révèle cette affaire ce jeudi. Une plainte collective a été déposée ce mercredi devant la Cour supérieure du Québec par la Maison des femmes sourdes de Montréal. Plainte déposée au nom d'une quarantaine d'anciennes élèves et pensionnaires de l'Institut des sourdes muettes de Montréal qui auraient subi des sévices dès l'âge de 6 ans pour certaines. La poursuite allègue que les sœurs religieuses utilisaient leur pouvoir et leur autorité pour abuser des enfants et leur inspirer la peur de les dénoncer, détaille la plainte déposée. Il est question notamment d'attouchements et d'agressions sexuelles, détaille la presse, qui précise que la communauté religieuse en question savait ce qui se passait, mais n'aurait pas agi pour faire cesser les sévices.
Romain Lemaresquier, après ça, difficile hein, de garder le moral et d'avoir le sourire. Et pourtant, l'humour, bien souvent, ça nous aide à affronter le pire. Ce ne sont pas les Cubains qui diront le contraire. Rire pour oublier, rire pour déjouer la censure, l'humour et l'impertinence. Nouveau défi pour les autorités de La Havane. C'est un reportage de Domitille Piron.
Mieux vaut ne pas parler de ça, dit en riant cette jeune femme. À Cuba, le rire permet effectivement de taire les choses, ou bien de mieux affronter une situation. Moqueur, taquin, les Cubains préfèrent aborder la vie de cette manière, comme cette vieille dame qui fait un constat amer sur la situation économique du pays.
Je ne vois aucun changement venir à l'horizon, à moins qu'un satellite vienne se poser ici. Ou qu'un avion nous envoie des paquets de ravitaillement. Aïe, ma vieille, j'en ai vu des vertes et des pas mûres.
Le rire a des effets bénéfiques sur le corps et la santé mentale, et il a aussi un impact social à Cuba. Dans le système socialiste cubain, le rire est salvateur, estime le caricaturiste indépendant Vimar Verdecia Fuentes.
Pour les Cubains au quotidien, l'humour est fondamental parce qu'il a un rôle de catalyseur et cela rend les problèmes plus supportables. Parce que la vie ici est difficile, il y a beaucoup de manques. Et comme nous sommes assez créatifs, nous avons même un mot pour cela. C'est le choteo. Ça veut dire qu'on rit de nos propres problèmes. Et nous, les Cubains, sommes de bons spécialistes pour ça. C'est d'ailleurs peut-être la raison pour laquelle on ne résout pas nos problèmes.
Chaque blague est une petite révolution, écrivait George Orwell. Et pour l'humoriste Jardiel González, qui a hâte de remonter sur scène une fois passées les mesures de restriction sanitaire, les blagues sont dépositaires de la vérité.
Il faut rire des problèmes, mais pas seulement. C'est important d'en rire pour les critiquer, pour en parler, les montrer, et avec l'intention qu'ils se résolvent, qu'ils disparaissent. On révèle beaucoup de vérités à travers une blague.
Selon la blogueuse Yoani Sanchez, le castrisme est à l'humour ce qu'une nuit nuageuse est à un observatoire astronomique. À Cuba, l'humour est une des seules formes d'expression qui permet une certaine critique politique. Mais ici, on ne peut pas rire de tout, ni trop fort, et la censure existe, selon cet humoriste. Par exemple, les blagues sur Fidel Castro sont inexistantes dans la sphère publique. Mais l'arrivée d'Internet à Cuba a changé la donne et a fait exploser la critique humoristique. Avec les réseaux sociaux, les Cubains n'hésitent plus à se moquer de leurs dirigeants, qui donne parfois du grain à moudre. La limonade est la base de tout et il faut mettre en ordre la mise en ordre. Ces phrases du président Miguel Díaz-Canel ont fait hurler de rire les internautes cubains qui tournent désormais en ridicule leurs dirigeants, scrutent le moindre lapsus et créent des mèmes à une vitesse éclair. Pour le dessinateur de presse indépendant Vimar Verdecia, Internet a effectivement créé une brèche dans la censure cubaine et sur les réseaux sociaux, il n'hésite pas à poster des caricatures acides et critiques de la réalité avec un personnage de mouton qu'il a créé.
Quand je vois une injustice ou une situation douloureuse et que je me sens impuissant et pour laquelle je ne peux rien faire parce qu'ici, si on s'exprime, on peut avoir de très graves problèmes. J'ai toujours une idée qui surgit avec mon personnage, Yoel le mouton. Il devient mon porte-parole. porte-parole. Un des dessins que j'aime le plus, il est un peu dur. C'est Yoel, assis dans un fauteuil. Et en face de lui, là où devrait se trouver la télévision, il y a un pot sur lequel il est écrit « Vaseline ». Et Yoel dit « Chérie, dépêche-toi, le journal télé va commencer. Ils vont parler de l'ordenamiento ». L'ordenamiento, ce sont toutes ces mesures qu'a mises en place le gouvernement pour essayer de restructurer l'économie, mais tous les jours, il continue de parler des mêmes problèmes et on ne s'en sort pas, et selon moi, ce n'est que de la vaseline.
Domiti Piron, La Havane, RFI.
9h25 à La Havane.
Le journal de l'Outre-mer.
Bonjour Tessa Groman.
Bonjour Michael.
On a un peu d'avance, tiens, avant de lancer votre propre journal. Une devinette cubaine. Est-ce que vous savez, Tessa, quel est l'animal cubain qui a la queue la plus longue ?
Ouh là là, vous me cueillez là, j'ai pas la moindre idée.
Eh bien, c'est le poulet. Le poulet tend, les files d'attente pour en acquérir à Cuba sont longues. Voilà, l'humour, pour rire de tout. On reprend notre sérieux. La tension, Tessa, est au maximum dans les centres hospitaliers de Guyane.
Oui, le taux d'incidence du Covid-19 est de 297%. C'est de loin le chiffre le plus élevé de tous les départements français. De Saint-Laurent-du-Maroni à Kourou, en passant par Cayenne, tous les établissements de soins sont sous pression. Christophe Robert, le directeur du groupement hospitalier de Guyane, tire la sonnette d'alarme car les services de réanimation sont saturés.
Au niveau territorial, c'est à peu près 48 lits disponibles, 41 sont occupés. Nous sommes dans une dynamique permanente en cherchant à optimiser au maximum la prise en charge et à réduire les temps de prise en charge et d'hospitalisation. On arrive quand même aujourd'hui aux limites de l'exercice. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité alerter la population sur la situation un petit peu difficile que nous traversions.
Propos recueillis par Myriam Boiscoulin, Guyane la première. En Martinique, en revanche, les voyants sont au vert et les contraintes sanitaires s'assouplissent. À Fort-de-France, l'aéroport retrouvait un climat d'effervescence hier, au premier jour de la levée des motifs impérieux pour se rendre dans l'Hexagone. Pierre-Yves Honoré, Martinique la première.
Chariot à bagages et autres troulées de voyageurs résonnent de nouveau sur le sol.
Moi, j'attendais ça avec impatience. Parce que j'ai l'habitude de voyager, ça me manquait énormément.
Cette levée des motifs impérieux tombe à point nommé pour cette femme. Elle accompagne sa nièce dans l'Hexagone pour un stage de coiffure.
Puisqu'elle ne trouvait pas de patron ici, donc elle est obligée de partir.
Du côté des commerçants, on retrouve le moral.
Il y a une différence, il y a plus de mouvement, il y a un peu plus de vol aussi, mais ça va se décanter très vite.
Cette reprise d'activité, c'est un ouf de soulagement pour les compagnies aériennes qui ont accumulé les pertes. Toutes ont augmenté leur fréquence.
En Guadeloupe, les marins pêcheurs professionnels bloquent l'accès au chenal du port de Pointe-à-Pitre depuis hier. Ils réclament une réduction du prix du carburant. Ceci explique peut-être cela. Depuis quelques temps, les réservoirs des engins utilisés pour la coupe et le transport de la canne à sucre dans l'archipel sont siphonnés. Les voleurs s'en prennent aussi aux batteries et aux pièces détachées. Du travail de professionnels, estime Jérémy Balagne, le chef de chantier d'une entreprise de coupe en Basse-Terre.
C'est arrivé que les gars ils me coupent des tuyaux pour pouvoir prendre le gasoil, ça c'est des vandales, mais c'est pas des professionnels. Ceux que j'appelle les pros, c'est, ils ont des outils pour pouvoir siphonner, on retrouve le bac à sec.
Comment vous faites le soir, vous récupérez le...
Je fais comme eux, j'ai des outils pour pouvoir siphonner, j'ai ma cuve à gasoil portée et je récupère le gasoil directement dans mes réservoirs. C'est compliqué de se dire que les premiers visés, ben, c'est les opérateurs de coupe ou même juste les agriculteurs. J'ai des collègues qui, effectivement, eux, c'est pareil. Même en étant garés chez eux, ben, leurs tracteurs se font siphonner.
Voilà, Jérémy Balagne, interrogé par Josiane Champion, Guadeloupe, la première. Enfin, Michael, sachez que ce jeudi 10 juin est férié en Guyane. C'est le jour où le département France et d'Amérique commémore l'abolition de l'esclavage.
Merci beaucoup, Tessa Groman. On se donne rendez-vous pour de nouvelles devinettes une prochaine fois. Merci à vous et aux équipes de la première qui concluent, comme chaque jour, ce journal d'Haïti et des Amériques.
Pour nous écrire, RFI. 80 rue Camille Desmoulins, 92 130, Issy-les-Moulineaux, France. Ou sur notre site internet www.rfi.fr.
Et bien sûr, pour nous réécouter en podcast, comme chaque jour, c'était sur RFI, Pure Radio et sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez nous suivre et nous écrire aussi sur les réseaux sociaux comme sur Twitter avec @RFIAmérique. C'était Claude Battista qui était aujourd'hui à la réalisation. On se retrouve demain sur RFI.
RFI.